Pascal Deluit est politologue. Il est régulièrement invité sur les plateaux des télévisions locales et régionales pour éclairer l'actualité politique. Il enseigne à la faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB et à l'invitation de l'université Interage de l'ULB, le CEPULB, Pascal Deluit développe la question des gauches radicales en Europe. Vous êtes le 21 mars 2019 à l'auditoire Chavannes du campus de Solbosch de l'ULB.
Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, vous avez bien du courage, parce que depuis 3 semaines, on n'avait pas de soleil, et voilà que vous devez vous passer du soleil malgré tout. Donc je vais essayer de vous donner raison d'être venu, en tout cas d'essayer de vous informer et de vous intéresser à la thématique des gauches radicales en Europe. C'est une thématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pendant... Depuis longtemps, en fait, je travaille beaucoup sur cette thématique, mais j'ai voulu à un moment cristalliser l'ensemble de mes recherches, et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus entre 2012 et 2016. Et par ailleurs, indépendamment de ce travail, de ma volonté, il y a eu un agenda nouveau autour des gauches radicales, puisque depuis quelques années, dans certains États, il y a une forme de rebond ou une forme de renouveau ou des choses nouvelles autour de formation de la gauche radicale. Bien sûr, la Grèce, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais rappelez-vous, il y a quelques années, quand Syriza est arrivé dans le spectre politique, on a beaucoup parlé de Syriza, on a beaucoup parlé d'Alexis Tsipras. L'arrivée en 2014 d'un tout nouveau parti en Espagne, Podemos, qui a d'emblée frappé les imaginations lors de l'organisation des élections européennes d'il y a exactement 5 ans, du printemps 2019. En 2012, la campagne présidentielle en France, avec la performance de Jean-Luc Mélenchon, et postérieurement la création de la France insoumise. Et par ailleurs, au-delà de ces 3 cas, qui sont 3 cas sur lesquels on a beaucoup discuté dans les médias, pour partie dans la communauté scientifique, on a observé aussi des choses moins connues, mais pas moins intéressantes, dans des formations de gauche radicale dans certains pays, des pays comme le Grand-Duché de Luxembourg, par exemple, petit pays, mais avec du mouvement. Il y a aussi des choses intéressantes dans les pays scandinaves et même occasionnellement en Europe centrale et orientale, au Portugal, par exemple. Donc, ça, c'est la situation contemporaine, mais en réalité, bien sûr... La question des gauches radicales se pose certainement depuis le 19e siècle. Et donc, pour examiner la situation actuelle et pour envisager le statut actuel des gauches radicales, il faut remonter un petit peu dans le temps et il faut aussi, et c'est une démarche qu'on va toujours avoir dans ma discipline, essayer de définir de quoi on parle, parce que la définition de notre objet montre qu'on parle de choses parfois différentes qui ont le même nom. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le piège du nominalisme. Et dans mon domaine, ma spécialité, c'est l'étude des partis et des processus électoraux. Le nominalisme, c'est vraiment quelque chose de fondamental à bien comprendre, parce que sinon, on fait des comparaisons non comparables. Je vais vous donner quelques exemples pour éclairer cela. Si vous étudiez comme moi, par exemple, la gauche, le spectre politique de gauche, vous allez étudier les gauches radicales, vous allez aussi étudier la famille socialiste, la famille social-démocrate. Et dans beaucoup d'États, le principal parti de gauche du pays s'appelle le Parti social-démocrate. Mais si vous allez au Portugal, par exemple, en vacances, vous allez peut-être remarquer qu'il y a des affiches d'un parti qui s'appelle le Parti social-démocrate et qu'elles ne vous paraissent pas spécialement à gauche. Ben oui, le plus grand parti du Portugal, le plus grand parti de droite du Portugal, s'appelle le Parti social-démocrate. Donc, c'est des faux amis ennuyants. Vous en avez d'autres comme ça. Un très connu, c'est le Parti populaire. Le Parti populaire européen, c'est la famille des partis démocrates, chrétiens et conservateurs. Le Parti populaire danois, c'est la droite radicale. Le Parti populaire italien, c'est la démocratie chrétienne. Vous avez des People's Party aux États-Unis qui est un parti socialiste. Donc, vous avez des faux amis. Et Si vous êtes néerlandophone et que vous étudiez, comme moi, la gauche et la gauche radicale en particulier, là aussi, vous avez deux faux amis. Hein, en Flandre, le Parti social-démocrate, c'est le SPA, Socialistische Partij Anders, et le Parti de gauche radicale, c'est l'équivalent du PTB, c'est le PTB en irlandais, le PVDA, Partij van de Arbeid. Si vous allez aux Pays-Bas, c'est exactement l'inverse. Le PVDA est le Parti social-démocrate, et le Socialistische Partij, donc littéralement Parti socialiste, c'est le parti de la gauche radicale. Donc tout ça pour vous dire, un petit détour, hein, méfiez-vous des noms. Les noms n'indiquent pas toujours l'objet dont on parle. Hein, il faut toujours savoir de quoi on parle. Et puis, je viens maintenant, méfiez-vous aussi de la temporalité. Dans le temps, l'objet dont on parle peut revêtir des choses différentes. Alors, quelques illustrations. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on parle de gauche et de droite, donc de gauche radicale et éventuellement de droite radicale, il faut savoir gauche radicale, gauche, droite, par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Parce que, en vérité, vous pouvez être classé à gauche ou à droite sur des objets ou des thématiques différentes. Hein, et donc, le plus souvent, aujourd'hui, quand on dit gauche-droite, ça va référer dans l'imaginaire de citoyens, parfois de politologues, parfois d'étudiants, gauche-droite sur les questions socio-économiques. Mais ce n'est pas une évidence. C'est-à-dire qu'il y a différentes questions qui se posent dans la société, et sur ces différentes questions, il peut y avoir un positionnement de gauche et un positionnement de droite. Et donc, vous pouvez vous positionner à gauche sur certaines questions, à droite sur d'autres. Hein, donc, c'est toujours important de savoir par rapport à quelle question. Et c'est toujours important de savoir quelle est dans l'imaginaire la question principale. Alors, dans notre jargon, ces questions, on les appelle des clivages. Alors, le clivage est un mot qui est utilisé très couramment, mais le clivage dans le domaine de la science politique, c'est une fracture forte, une fracture de la société forte qui met en opposition deux camps. Deux camps sur une thématique centrale. Hein, c'est ce qu'on appelle la théorie des clivages, qui est issue de deux auteurs très très importants en sciences politiques, Seymour Martin Lipset et Sten Rokhan, et qui montrent que dans le temps, en Europe, se sont créés des clivages, c'est-à-dire hein, des lignes de démarcation très fortes entre citoyens, hein, et je vais prendre un exemple dans un instant, qui fait que les citoyens se posent sur ces questions. Alors, avant l'État parlementaire et avant la démocratie parlementaire, l'opposition est au sens propre, c'est-à-dire c'est une opposition physique qui génère de la violence physique, voire des guerres. Hein, et dans l'État parlementaire et dans la démocratie parlementaire, ces oppositions, ces clivages mettent en confrontation des camps et ça se cristallise au moment des élections. Donc, quelques exemples. La Belgique, commençons par quelque chose qui a été très important en Belgique, qui l'est encore dans une certaine mesure, ce qu'on appelle le clivage philosophique, c'est-à-dire la question des relations entre l'État et l'Église. Hein, la question des relations entre l'État et l'Église. Et vous le savez, en Belgique, ça s'est cristallisé sur la question scolaire. Hein, vous êtes ici dans un auditoire de la meilleure université du monde, l'ULB. L'ULB a les meilleurs professeurs du monde, mais indépendamment de ça, elle est née, comme vous le savez peut-être, en 1834, et elle est née en opposition à la création d'une autre université. Il faut bien confesser que c'est également une très bonne université, l'Université catholique de Louvain. Et ces deux universités naissent la même année, en 1834. Hein, vous savez qu'officiellement, l'UCL est née il y a cinq siècles, mais la vérité, c'est qu'elle est née comme nous en 1834. Ça n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance. Et ces deux universités naissent pour la formation des élites de l'époque, mais dans une concurrence féroce. Hein, dans une concurrence féroce. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi des études à l'ULB et qui ont été un peu comitards, ils connaissent le champ de l'ULB, le champ du semeur, ben vous avez une illustration de la concurrence féroce qui peut exister, qui étaient d'ailleurs, hein, les hooligans n'ont rien inventé. Parfois, les étudiants de l'ULB et de l'UCL se donnaient rendez-vous et on allait à la castagne. Hein, et quand je dis féroce, c'était réellement féroce, c'est-à-dire on allait vraiment à la castagne. Et de manière générale, ben, vous savez que le paysage scolaire belge est divisé entre le réseau libre et le réseau officiel. Cette opposition, elle se marque très clairement sur la question scolaire. C'est ce qu'on appelle le clivage philosophique qui va dominer la vie politique en Belgique au XIXe siècle, hein, et qui permet, par exemple, de comprendre qu'au XIXe siècle en Belgique, certainement jusqu'en 1894, c'est-à-dire certainement jusqu'au moment où il y a un troisième acteur qui entre dans le jeu, mais jusqu'en 1894, il y a deux grands acteurs politiques en Belgique, le Parti libéral et le Parti catholique. Ben, la droite, c'est les catholiques, et la gauche, c'est les libéraux. Hein, on parle des gauches libérales. Hein, on parle des gauches libérales. Et bien évidemment, aujourd'hui, quand on dit les gauches libérales, les étudiants ne comprennent pas. Mais non, monsieur, les libéraux, ils sont à droite. Oui, ils sont à droite aujourd'hui sur le clivage socio-économique, et parce que le clivage philosophique est moins prégnant, moins saillant, et que par ailleurs, les libéraux ont eux-mêmes évolué par rapport à ce clivage. Mais au XIXe siècle, quand on parle de gauche et de droite, la droite, c'est les catholiques, la gauche, c'est les libéraux. Hein? Et la gauche radicale, c'est les radicaux chez les libéraux. Hein? Par exemple, en Belgique, au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans le courant libéral, vous avez une opposition entre ce qu'on appelle les doctrinaires, incarnés principalement par la figure de Walter Frère Orban, et les radicaux, donc la gauche radicale, incarné par Paul Janson, par exemple. Hein, et donc, la gauche radicale, et vous lirez des textes en Belgique où on parle de gauche radicale, de Paul Janson, le père de Paul-Émile Janson, futur Premier ministre libéral. Donc, on a le clivage philosophique qui est important. Il touche à la question scolaire, il touche encore à d'autres questions. Hein, de manière générale, dans notre société, aujourd'hui, par exemple, encore, toujours aujourd'hui, la question de la vie et de la mort. Le rapport à l'interruption volontaire de grossesse, le rapport à la question de l'euthanasie, le rapport au parcours accompagnant la mort, que sais-je encore. Et d'où un autre domaine où il y a deux réseaux très importants, le domaine sanitaire, donc le réseau hospitalier. Dans cette région, vous avez l'hôpital académique de l'ULB, l'hôpital Erasme, l'hôpital académique, un des deux hôpitaux académiques de l'UCL, les cliniques Saint-Luc, hein, et ce sont deux très bons hôpitaux. Par ailleurs, bon, tendanciellement, ils se sont rapprochés, mais le rapport à la vie et à la mort n'est pas toujours le même dans les services et dans les approches. Deuxième grand clivage, c'est aujourd'hui celui qui vient le plus à l'esprit, le clivage socio-économique. Hein, si je ne précise rien, gauche-droite, on va nécessairement le ramener au clivage socio-économique, c'est-à-dire, hein, pour être schématique, entre une posture de laisser-faire, donc l'économie de marché et l'économie qui fonctionne le mieux sur une base de la loi de l'offre et de la demande, et l'idée de ce qu'on appelle la main invisible du marché, c'est-à-dire, hein, le marché s'autorégule. Ça, c'est une position libérale de droite en matière socio-économique. Une position de gauche va être au contraire une position de régulation publique, c'est-à-dire d'intervention des pouvoirs publics, en particulier, mais pas exclusivement, pour régler ou tempérer ou modérer un des problèmes de l'économie libérale, c'est-à-dire la question sociale. Hein, introduction de la législation sociale, salaire minimum, période de licenciement, introduction de l'allocation de pension et des choses de ce type-là. Donc vous avez une position de gauche et de droite sur les questions socio-économiques et qui reste une question encore très structurante. Mais clivage philosophique, clivage socio-économique, deux très importants clivages en Belgique, ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres. Donc, par exemple, une question qui aujourd'hui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance, la question du rapport à l'autre. On ne peut pas l'appeler autrement que la question du rapport à l'autre. C'est-à-dire, quand on pose la question du rapport à l'autre, ça réfère à deux choses. Ça réfère à quelle est ma communauté à laquelle j'imagine appartenir. Ça peut être la communauté des gens de l'ULB, Ça peut être les Bruxellois, ça peut être l'espace francophone, ça peut être la Belgique, ça peut être l'Europe ou citoyens du monde, que sais-je encore. Donc, hein, quelle est la communauté à laquelle j'imagine appartenir? Et donc, quelle est la figure de l'autre? C'est-à-dire celui qui n'a pas, ou celle qui n'appartient pas à la communauté, et quel est le regard que je porte à l'égard de l'autre. Hein, et bien sûr, il y a des choses très simples. Quand on parle de clivage universaliste ethnocentrique, nous, quand on étudie ce clivage, on l'étudie beaucoup à l'aune des droites radicales. Pourquoi ? Parce que l'identité principale des droites radicales réfère toujours, au minimum, à deux points nodaux. Le premier, ma communauté imaginée, c'est la nation. Hein, tous les partis de droite radicale sont des partis nationalistes et une vision qu'on qualifie de fermée ou d'organiciste de la nation. C'est-à-dire, la nation est un organe vivant hein, et un organe attaqué par des microbes, c'est-à-dire des autres hein, qui mettent à mal l'organe vivant, qui mettent à mal la gloire de la nation. Et donc, l'eau doit être rejetée. Donc, premier élément, la nation, c'est ma communauté. Deuxième élément, le rejet de l'autre. Le rejet de l'autre, et là, on parlera d'une vision ethnocentrique, hein, repliée sur son ethnie, littéralement. Bien sûr, vous pouvez avoir une communauté imaginée tout en ayant une approche très ouverte de l'autre. Et là, on parlera d'une approche universaliste. Hein. Et donc, si vous prenez les familles politiques aujourd'hui, ben, on observe en général que les droites radicales sont nécessairement des partis ethnocentriques et le plus souvent, sans que ce soit leur identité première, les partis verts, les partis écologistes, ont une identité universaliste en général. Hein, ça s'observe aux Pays-Bas, ça s'observe en Autriche, ça s'observe en Allemagne, ça s'observe en Flandre. Donc, vous pouvez avoir un clivage gauche-droite, même si ce n'est pas quelque chose sur lequel on va se rapporter tout de suite, mais hein, universaliste sera qualifié dans ce clivage d'une position de gauche et ethnocentrique d'une position de droite. Et enfin, il y en aurait d'autres que je peux souligner, mais je vais juste vous en présenter quatre. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle dans notre jargon un clivage sur les questions de société. Les questions de société, c'est tout ce qui ne ressortit pas des autres questions. Donc, exemple de questions de société, l'école. L'école. Est-ce qu'on considère que l'école doit être fixée sur une figure du maître et de la soumission des élèves, ou au contraire une figure de l'apprentissage? Vous pouvez avoir d'autres choses. Prenez une thématique qui intéresse fort les jeunes, la question du cannabis. Vous pouvez avoir une approche pénaliste de la consommation, voire de la diffusion du cannabis, interdiction de fumer du cannabis, interdiction d'en vendre, qui est une approche fermée, qu'on va considérer comme pénaliste, donc autoritaire, ou une approche qui est de dire ce n'est certes sans doute pas bon pour la santé, et je dis sans doute, c'est pas sans doute, ce n'est pas bon pour la santé de fumer du cannabis, mais le côté pénal est inopérant et inintéressant, et donc essayons d'encadrer la consommation du cannabis. Laissons-la libre et expliquons ses défauts. Hein, vous pouvez avoir ces approches-là sur différentes questions, entre une approche autoritaire. Prenons un autre exemple qui est en général un exemple sensible, qui est la question de la peine. La question de la peine que va prononcer un tribunal. Hein, et, par exemple, toute la question de la politique carcérale. Hein, c'est une question qui est très peu abordée dans le débat public parce que les intellectuels, les hommes et les femmes politiques ont peur des réactions des opinions. Hein, ils croient que les opinions, ce qui n'est pas nécessairement faux d'ailleurs, hein, est favorable à des peines dures, à une approche très pénaliste et très autoritaire, si je peux le dire ainsi, alors que cette politique, quand on l'étudie, ne fonctionne pas. Hein, ne fonctionne pas. Si vous prenez le cas belge, hein, on a accru les peines de prison dans le temps, et la politique carcérale est dans l'état le plus lamentable qu'on l'ait jamais connu, donc ça ne fonctionne pas. Hein, et donc, il faut une politique de réflexion sur... Il faut une peine proportionnelle et juste par rapport à la faute commise, mais il faut aussi permettre à la personne qui a commis une faute qu'on oublie sa faute dès qu'elle a réparé sa panne, hein, même si parfois réparer une panne est en réalité impossible. Hein, donc, donc, c'est un des espaces où vous pouvez aussi avoir une vision plutôt autoritaire ou plutôt libertaire qui sera pour des actes donnés, bien sûr, ne pas faire de peine de prison, mais des travaux d'intérêt général, des choses de ce type-là. Donc, très important à avoir à l'esprit que quand on parle de gauche-droite, ben, il faut savoir gauche-droite par rapport à quel clivage, parce que vous comprenez bien que pour certaines personnes, elles peuvent être à droite sur les quatre ou à gauche sur les quatre, mais pour un nombre très appréciable de personnes, tantôt elles seront plutôt à gauche sur certains clivages et à droite sur d'autres, et réciproquement. Et ceci nous amène à, pour clôturer sur ce premier temps, une observation, c'est que ce qui est important en politique, par rapport à ces clivages, qui sont des choses centrales, c'est premièrement que ça réfère à des identités. Hein, ça réfère à des identités socio-économiques, des identités sur les questions de société, hein, questions de société et l'environnement, par exemple, des identités laïques ou catholiques, que sais-je encore, ça réfère à des identités, donc, dans une certaine mesure, à des frontières. Hein, par exemple, une des choses que j'aime bien étudier, moi, dans l'étude des processus électoraux, c'est quels sont les partis pour lesquels un citoyen ne voterait jamais, c'est-à-dire qui constituerait pour lui le passage d'une frontière, hein, inimaginable par rapport à son identité. Alors, on croit que c'est toujours très simple, du style un électeur socialiste ne votera jamais libéral ou un électeur libéral ne votera jamais socialiste. Non, c'est plus nuancé. Hein, prenons dans l'histoire politique de Belgique, un électeur plutôt libéral mais laïque votera plus aisément socialiste le cas échéant que social-chrétien, qui est pourtant plus proche d'un point de vue socio-économique. Donc ça réfère à des questions d'identité et à des questions de frontières. Hein, j'imagine que pour vous comme pour moi, moi par exemple, jamais je voterai pour un parti de droite radicale, c'est hors de mon imagination. Ben, il doit y avoir aussi des passages d'un espace à l'autre, d'un camp à l'autre, littéralement, qui n'est pas possible. Et donc, ça vous ramène au fait que ces clivages, en fait, traduisent l'existence de conflits, c'est-à-dire traduisent l'existence de points de vue différents. Je vous le dis parce que souvent, on croit que... Enfin, souvent, on présente, c'est plus correct, on représente l'idée que le monde politique crée des clivages, hein, et qui, d'un point de vue politologique, est un point de vue... Je ne vais pas dire absurde, mais sans sens. Hein, le monde politique est issu des clivages, c'est-à-dire les partis sont issus des clivages. Ils sont la traduction dans la sphère politique des clivages existants dans la société. Hein, et si à un moment ces clivages, d'ailleurs, ne produisent plus les effets, ben, les partis disparaissent. Hein, regardez les partis démocrates chrétiens. En 1954, le CDNV, l'équivalent du CDNV d'aujourd'hui, avait 60% des voix. Aux dernières élections, 18% des voix. Ben, qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit que le clivage philosophique est moins saillant et crée moins d'identité aujourd'hui qu'il ne le créait en 1954. Alors, venons-en principalement au clivage socio-économique, puisque c'est essentiellement à partir de là que je vais travailler pour vous présenter les gauches radicales contemporaines. En gros, je crois qu'on peut dire que... il y a trois temps. Il y a un premier temps, vous allez avoir la création de partis sur ce clivage, qui est le temps entre 1848, hein, ce qu'on appelle la première grande révolution, le printemps des peuples, et 1917, la première révolution socialiste, la révolution bolchevique. Un deuxième temps, qui est ce qu'on appelle parfois le court XXe siècle, de la révolution bolchevique à la chute du mur de Berlin. Et puis, un troisième temps, qui est le temps contemporain, c'est-à-dire bah, que se passe-t-il depuis la chute du système soviétique, 1991, depuis la chute du mur de Berlin, 1989, en particulier pour la gauche radicale. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces trois temps, 1848-1917, 1917-1989, 1989 à nos jours, dévoilent une identité de gauche radicale qui est différente. Donc là, on est vraiment dans la chronologie. Hein, c'est plus spécialement par rapport à des thèmes. On est sur le clivage socio-économique, mais l'identité de la gauche et de la gauche radicale a évolué. Or, examinons le premier temps, donc 1848, printemps des peuples, à 1917. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est que, en gros, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la moitié du 19e siècle à la fin du 19e siècle, ce qui est la gauche radicale, c'est sur les questions socio-économiques, ce qui est le plus à gauche dans les familles libérales. En Angleterre, aux Pays-Bas, dans les pays scandinaves, en Belgique, donc c'est ce qui est le plus à gauche. Hein, ce sont les ailes, entre guillemets, radicales des partis libérales. Et ça, c'est une séquence qui, grosso modo, va de 1848 à 1878, 1879, 1880, et où on trouve essentiellement des intellectuels ou des personnalités de ce qu'on appelle parfois l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire des secteurs du monde ouvrier qui bénéficient de certains privilèges. Je vais vous prendre un exemple, les typographes, par exemple, les ouvriers typographes. De quels privilèges jouissent-ils ? Ils jouissent du privilège de savoir lire et écrire, hein, ce qui était à l'époque tout à fait exceptionnel pour des ouvriers. Donc vous avez des secteurs de ce monde-là. Dans le monde intellectuel, deux catégories de professions qui historiquement dévoilent des investissements assez importants dans la question sociale ou la question humanitaire, encore aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez observer cela, des médecins et des avocats. Pourquoi des médecins et des avocats ? Ben, les médecins, tout simplement, parce qu'ils sont confrontés à la réalité du monde. Ils sont confrontés au XIXe siècle à la réalité des ravages du capitalisme sur le monde ouvrier et parfois sur le monde paysan. Et certains sont des réformateurs sociaux, hein, veulent faire que les choses aillent mieux pour la santé de leurs patients. Et les avocats, dans une certaine mesure, c'est exactement la même chose. Ils sont aussi confrontés à la réalité du monde. Donc, c'est ce qui constitue les premières gauches et les premières gauches radicales. Et puis, ben, il va y avoir une radicalisation, si je peux le dire ainsi, de ces gauches radicales libérales. Et cette radicalisation des gauches radicales libérales va donner naissance essentiellement à la famille socialiste, hein, ce qui existe toujours, la famille socialiste social-démocrate. Si vous regardez l'histoire de la social-démocratie européenne, bon, c'est une histoire que vous pouvez prendre dans un temps un peu plus long que ce que je vous le présente maintenant, mais en gros, les partis socialistes et sociaux-démocrates voient progressivement le jour à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Hein, et pour une part, sont une radicalisation des gauches radicales libérales, et pour une part, sont des gens qui viennent directement du monde ouvrier ou de certains secteurs du monde syndical, mais la présence des gauches radicales libérales est initialement très importante. Si vous prenez la Belgique, le Parti ouvrier belge, qui voit le jour au printemps 1885 et puis dans un deuxième congrès en août 1885, ben vous observerez que dans les délégués au premier congrès du POB, il y a énormément de gens qui étaient auparavant militants du Parti libéral dans son aile radicale. Hein, en ce compris, celui qui va devenir le plus important d'entre eux à la fin du 19e et au début du 20e, Emile van der Velde. Hein, Emile van der Velde est le fils d'un notable libéral. Il vient à l'ULB étudier le droit, il adhère à la jeune garde libérale et puis il passe à la jeune garde socialiste. Hein, et donc, chose assez fréquente, et vous en avez plein, hein, même des gens qu'on présente parfois comme des grands révolutionnaires. S'il y a des gens du Borinage ici, peut-être que ça leur parlera. Les deux frères de Fuisseau, Alfred et Léon de Fuisseau, hein, qu'une certaine historiographie présente comme des grands révolutionnaires, les deux ont été parlementaires libéraux en Belgique. Hein, donc, vous avez une radicalisation des gauches radicales libérales qui donne naissance à la famille socialiste. Et en fait, les premiers résultats électoraux probants, le premier grand résultat électoral probant de la famille socialiste en Europe, c'est en Belgique, c'est en 1894. Hein, en 1894, il y a la première élection générale au suffrage universel masculin. Les socialistes font à peu près 20% des voix. C'est pas facile à calculer parce qu'il y avait des cartels, mais à peu près 20% des voix. Dans la famille socialiste, c'est considéré comme la première grande percée. Donc vous voyez, charnière du 19e et du 20e siècle, et dans beaucoup d'États, notamment les États scandinaves, au départ, les socialistes ont quelques candidats sur les listes libérales. Hein, et puis, il y a un détachement. Donc, deuxième phase des gauches radicales, c'est le socialisme radical. Et puis, vous avez la naissance d'un socialisme dit révolutionnaire qu'on retrouve soit dans la famille social-démocrate, et notamment chez les sociaux-démocrates allemands ou chez les sociaux-démocrates austro-hongrois, soit qui va naître en parallèle de la naissance des partis socialistes. Et indépendamment des socialistes, vous avez aussi, dans certaines parties de l'Europe, indépendamment du fait partisan, une gauche radicale qui s'incarne dans le syndicalisme, ou en tout cas dans une certaine vision du syndicalisme. C'est ce qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire, et qui est assez intéressant, qui est surtout très présent dans les États du sud de l'Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, et dans une certaine mesure, plus présent dans le monde paysan que dans le monde ouvrier. Hein, et notamment, vous avez des grandes traditions historiques de syndicalisme révolutionnaire, toujours dans le sud de l'Europe et dans le sud des États du sud de l'Europe. Hein, de nouveau, si vous allez au Portugal, ben, vous allez encore trouver des traces de syndicalisme révolutionnaire au sud du Portugal. Hein, et beaucoup de gens qui viennent de là votent d'ailleurs encore communistes au Portugal. Donc si vous regardez une géographie électorale du Portugal, vous verrez que plus vous montez, plus c'est à droite, plus vous descendez, plus c'est à gauche. Hein, et si vous allez en Espagne, c'est la même chose. Vous trouvez encore de grandes traces du syndicalisme révolutionnaire en Andalousie, par exemple. Hein, il y a une petite exception dans la géographie électorale espagnole, d'un cas qu'on débat beaucoup depuis 3 ans, c'est la Catalogne. Hein, vous avez une tradition de syndicalisme révolutionnaire en Catalogne. Même chose en Italie. Hein, dans le centre et dans le sud de l'Italie, vous avez des traditions de syndicalisme révolutionnaire. Donc, voilà comment se pose à l'origine, entre 1848 et 1917, hein, l'évolution des gauches radicales. On a d'abord la gauche des libéraux, puis la gauche de la gauche des libéraux, puis la gauche de la social-démocratie. Hein. Et cette histoire de radicalisation, elle va continuer, puisque dans la deuxième phase, que se passe-t-il ? Vous avez, en gros, la naissance de ce qui a constitué l'essentiel des gauches radicales pendant le XXe siècle, c'est-à-dire le mouvement communiste international. Le mouvement communiste international, en gros, il voit officiellement le jour, si on peut le dire comme ça. On donne toujours des dates pour fixer, mais les choses sont plus subtiles en réalité. Il voit officiellement le jour en mars 1919. Donc la révolution bolchévique intervient en octobre-novembre 1917. Et la première réunion des partis communistes, ou plus correctement d'ailleurs de personnalités communistes, qui va créer l'international communiste, ce qu'on appelle parfois le Comintern, intervient en mars 1919. Hein, en mars 1919. Et donc, vous avez la naissance de ce qu'on va nommer le mouvement communiste international, dont je vais vous parler, et qui va se développer en Europe, en Asie, au Proche-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique latine, hein, mais dans une certaine mesure, primairement en Europe, mais, je me permets d'insister, pas exclusivement en Europe. Hein, ça devient un phénomène, au sens propre du terme, planétaire. Hein, et d'ailleurs, si vous regardez le XXe siècle, en fait, l'extension communiste va concerner à titre principal, d'autres espaces que l'Europe, et bien sûr, le premier d'entre eux, la Chine. Hein, la Chine devient officiellement communiste en 1949. C'est le plus grand pays en termes d'habitants. Et au-delà de la Chine, vous allez encore avoir de très gros développements en Asie. Hein, le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Vous aviez un énorme parti communiste en Indonésie. Encore aujourd'hui, par exemple, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien, mais il y a certains États de l'Inde, hein, qui ont un très fort parti communiste. Donc, vous avez eu un très gros développement du communisme en Inde également. Alors, pour autant, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est important à savoir, pour autant, le mouvement communiste international n'a pas incarné toutes les gauches radicales. D'abord parce qu'il a eu des dissidences, et que ces dissidences ont eu une certaine vie, plus ou moins importante d'un point de vue électoral, plus ou moins importante d'un point de vue politique, parfois plus ou moins importante d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue idéologique. La dissidence trotskiste, très peu importante d'un point de vue électoral, mais assez importante d'un point de vue intellectuel par ailleurs. Et puis, postérieurement à la Deuxième Guerre mondiale, postérieurement à l'avènement de la Chine communiste, la dissidence maoïste, qui est très intéressante à étudier dans les années 60, qui a pour partie influencé les événements de mai 1968. Je vais vous reparler de tout ça, mais d'abord un mot sur la troisième phase. Alors, dans la troisième phase contemporaine, c'est-à-dire après la chute du modèle, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin et puis l'implosion de l'Union soviétique, eh bien, on rentre dans une dynamique qui, contrairement aux différentes séquences de la première et de la deuxième phase, montre d'emblée une très grande diversité. C'est-à-dire que dans la période contemporaine, parler de gauche radicale au singulier n'a plus beaucoup de sens. Il faut véritablement parler de gauche radicale au pluriel. J'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure, mais on est véritablement dans l'étude d'abord des organisations politiques qui se présentent aux élections qui sont très diverses, et par ailleurs, je vous en parlerai pas beaucoup, mais c'est quand même important à savoir, vous avez aussi toute une composante de radicalisation à gauche de certains secteurs de la société qui, dans une certaine mesure, sont en marche extra-institutionnelle, c'est-à-dire ne se présentent pas aux élections, ne visent pas à recruter des adhérents, ne visent pas à conquérir le pouvoir, et qui pourtant existent. Et vous pourriez prendre des exemples simples. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, vous avez plusieurs mouvements sociaux qu'on peut qualifier à la gauche, dans une certaine mesure, de gauche radicale, qui ne participent pas aux élections et qui n'ambitionnent pas de le faire, et dont les membres, d'ailleurs, souvent ne votent pas. Exemple, de nombreux activistes de ce qu'on appelle les ZAT, les zones à défendre, dont certains appartiennent clairement au spectre de la gauche radicale, n'ambitionnent pas d'aller aux élections et beaucoup ne participent pas aux élections. Donc, ce qui est aussi intéressant aujourd'hui, même si moi je vais plutôt vous parler du cadre institutionnel, c'est de voir qu'il y a tout un cadre extra-institutionnel, notamment dans des secteurs qui fréquentent les universités, c'est-à-dire les étudiants, qui considèrent que le combat est un combat de terrain et que les élections ne font pas ou accéder au Parlement ou accéder au gouvernement n'est pas un objectif à atteindre. Alors, revenons un petit peu sur les deux séquences. D'abord, la séquence intermédiaire et puis, bien sûr, la séquence contemporaine. La séquence intermédiaire, c'est donc le mouvement communiste international. Dans une certaine mesure, c'est l'heure de gloire des gauches radicales européennes, puisque dans certains États, les communistes vont arriver au pouvoir, très peu en Europe. Il y a bien sûr la Russie soviétique, il y a bien sûr aussi, dans le cadre de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, certains États d'Europe centrale et orientale, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie ou la Yougoslavie, par exemple, pour ne citer que ceux-là. Mais c'est surtout en Asie que les succès vont être le plus probants. Quand on étudie le mouvement communiste international, je crois que là aussi, il est important de distinguer en deux temps. Vous avez un premier temps qui est un temps entre 1917 et 1956, c'est-à-dire l'étude des gauches radicales et du mouvement communiste dans ce temps-là. Et puis vous avez un deuxième temps qui est fatalement de 1956 à la chute du mur de Berlin. Alors pourquoi ces deux temps ? Le premier temps, 1917-1956, pour ce qui concerne l'étude du mouvement communiste, et ça veut dire la réalité du mouvement et des partis communistes entre 1917 et 1956, c'est une observation fondamentale, absolument fondamentale et cruciale, c'est le lien inextricable et substantiel et identifiant à l'Union soviétique, à la Russie soviétique et à l'Union soviétique. C'est-à-dire que dans une large mesure, les partis communistes qui voient le jour et qui se développent ont un référent identitaire, ce qu'on appelle parfois une organisation de patronage fondamentale qui est la Russie soviétique et puis l'Union soviétique, et ce qui s'y fait. J'évoquais en préambule tout à l'heure la question des identités. Quand vous étudiez les partis communistes dans cette phase-là, quand vous étudiez les militants communistes, les cadres communistes dans cette phase-là, la chose première, la chose fondamentale, la chose exclusive, c'est il faut défendre la patrie du socialisme. La patrie du socialisme est le référent fondamental, tout à fait fondamental. C'est vrai substantiellement, c'est-à-dire c'est vrai de l'identité des partis, c'est vrai de l'identité des militants, c'est vrai de l'identité des cadres. Et ça a été étudié d'un point de vue politologique, psychologique, sociologique, etc. Mais c'est vrai aussi d'un point de vue organisationnel. Je vous disais tout à l'heure, si on doit donner une date de la naissance du mouvement, c'est 1919, naissance de l'Internationale communiste. Et quand vous étudiez l'Internationale communiste, de 1919 à sa dissolution en 1943, en fait, vous vous rendez compte que les partis sont soumis aux décisions de l'Internationale et que, assez vite, l'Internationale est elle-même soumise aux décisions du Parti communiste de l'Union soviétique. Et donc, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir l'identité des partis communistes européens entre 1917 et 1956 sans avoir cet élément de référence clé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autre chose par ailleurs, mais ils sont d'abord cela. Ça, c'est vraiment fondamental. Ils sont d'abord cela. Et les militants sont d'abord cela. Et vous avez... Nous, on étudie parfois des parcours de vie, en particulier parfois des parcours de vie de militants communistes à cette époque-là, et tout est agencé à cette idée de la défense de l'Union soviétique, de la patrie soviétique. Ils sont parfois autre chose, ils sont aussi des acteurs qui interviennent dans leur sphère nationale, qui ont une certaine influence dans leur sphère nationale, mais ils sont d'abord cela. Alors, ce qu'il faut aussi observer, contrairement d'ailleurs parfois à une image d'Épinal, c'est que, passé la séquence 1918-1921, qui est une séquence de bouleversements sociaux assez importante en Europe, qui voit la naissance de beaucoup de partis communistes, en fait, peu sont très forts. On dirait « successful » en anglais, donc peu ont beaucoup de succès. Non seulement il n'y a pas de tentative insurrectionnelle après 1921, il y en a eu quelques-unes avant, en Allemagne, en Hongrie, en Autriche, en Bavière, mais très peu. Et puis après 1921, il n'y a quasiment plus de tentatives insurrectionnelles. Et ces partis qui progressivement deviennent des organisations dans des États parlementaires ou parfois dans des États autoritaires, peu d'entre elles ont et captent des grands succès, en particulier, par exemple, des grands succès électoraux. Vous avez quelques cas... le KPD, donc le Parti communiste allemand, jusqu'à sa dissolution en mars 1933, qui va devenir un grand parti, à la fois en nombre de membres et en performance électorale. Le Parti communiste français, après la Deuxième Guerre mondiale, le Parti communiste finlandais. Vous allez avoir le grand Parti communiste, je vous l'évoquais tout à l'heure, Parti communiste italien, après la Deuxième Guerre mondiale, ou un parti qui est peu connu, mais qui est encore aujourd'hui le plus important de tous les partis communistes européens, qui est l'AKEL, le Parti des travailleurs chypriotes. Donc, le succès est l'exception. Alors, bien sûr, en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle, cette image-là peut vous paraître un peu bizarre, parce qu'on parlait beaucoup du Parti communiste italien et du Parti communiste français, deux grands partis dans deux grands pays. Mais si vous regardiez le reste des autres pays, parfois des pays moins importants, les partis communistes étaient plutôt des acteurs modestes, voire inexistants. Alors bien évidemment, eu égard à la centralité de l'Union soviétique, le modèle est un modèle simple, c'est ce qu'on appelle le modèle du centralisme démocratique, avec le cœur de la décision appartenant au centre, et ce qu'on appelle des partis centralistes, c'est-à-dire la décision vient d'en haut, le poids de la base est très faible. Si je dois donner un exemple en contre-modèle, je veux aussi parler des partis verts ou parfois des partis régionalistes où il y a énormément de débats à la base et où l'arbitrage entre le centre et la base est un arbitrage bien plus équilibré. Tandis que dans les partis communistes, fondés sur le centralisme démocratique, la décision vient d'en haut. Ce sont souvent des partis d'intégration sociale, c'est-à-dire qui essayent de créer des communautés politique, syndicale, mutualiste, sportive, par exemple. Mais ce sont souvent des petits partis d'intégration syndicale. Et vous avez certainement, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, une figure de l'adhérent. Alors, tous les adhérents n'étaient pas engagés dans cette figure, mais une figure de l'adhérent qui existait réellement, c'est-à-dire la figure de l'adhérent qui s'engage totalement, totalement au service de la cause. Et là aussi, quand on fait des récits de vie, quand on étudie des parcours biographiques, vous avez des gens qui, dans une logique de négation totale de sa propre vie au profit des autres. Et vous avez des révolutionnaires professionnels, des militants quasi professionnels qu'on retrouve encore aujourd'hui. Ce sont des figures que nous étudions, que des psychologues étudient. Donc c'est deux approches différentes, mais c'est la figure centrale du militant communiste. Et comme je vous le disais, en fait, ce sont officiellement des partis révolutionnaires. C'est une radicalisation de la social-démocratie, mais c'est une révolution à distance. C'est-à-dire que la révolution, c'est ce qui s'est passé en Russie soviétique, en Russie en 1917. Quasi aucun parti communiste européen, je vous l'ai dit, après 1921, n'a tenté de prendre le pouvoir. La seule vraie exception, c'est entre 1946 et 1948, en Grèce, où le parti communiste grec a essayé de prendre le pouvoir par les armes, mais a échoué. Alors, venons-en au deuxième temps. Pourquoi 1956 ? Il y a un très grand historien britannique, on parle parfois de lui comme le meilleur historien du XXe siècle. Ça ne veut rien dire, je crois, dans l'absolu, mais très grand historien, qui est Eric Hobsbawm, qui a écrit des épopées, et notamment son épopée du XXe siècle s'appelle « L'âge des extrêmes », un bouquin qui a fait beaucoup parler de lui, qui a écrit sa biographie à la fin du XXe siècle qui s'appelle « Franc-tireur » et qui raconte que 1956 fut l'anus horribilus pour le monde communiste. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est la tenue du 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. Joseph Staline est mort en 1953, Nikita Khrouchtchev lui a succédé, et au 20e congrès va présenter dans un rapport dit le rapport secret un certain nombre de conclusions du rapport d'une commission d'historiens sur le rôle de Staline en Union soviétique de 1917 à 1953, fatalement, dans un contexte de lutte interne au PCUS. Donc tout ça est lié à des rapports de force et présente la figure de Staline, quand vous lisez le rapport secret, sous certains aspects de manière très avantageuse, et sous d'autres aspects, de manière très désavantageuse. Il faut savoir qu'à l'époque, Staline, c'est la grande figure du monde communiste, et pas rien que du monde communiste. Vous êtes ici assis dans l'auditoire de la meilleure université du monde, qui a, en 1945, donné le diplôme de docteur de honoris causa à Staline, comme en même temps, exactement en même temps, à Churchill et à De Gaulle. Donc Churchill, De Gaulle et Staline ont reçu un honoris causa en même temps. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? En fait, ça ne dit rien sur l'ULB. Ça ne dit rien sur l'ULB. Parce qu'ils n'ont pas été les seuls à faire ça. On n'a pas été les seuls à faire ça. Ça dit sur l'importance de la figure de Staline en 1945. Il faut toujours être prudent de ne pas faire d'anachronisme. Si vous regardez la figure de Staline en 1945, c'est quelqu'un qui, en Europe, est extrêmement populaire. Quand je dis qu'il est extrêmement populaire, c'est plus que ça. Faut s'imaginer qu'en 1945, une grande majorité de citoyens, en ce compris dans ce pays, en ce compris dans le chef de gens très éloignés de l'idéologie communiste, considèrent que le vainqueur de la guerre, c'est l'Union soviétique, ce qui, dans une certaine mesure, est juste, en une certaine mesure seulement. Donc Staline était très populaire. Et puis bien sûr, il va perdre sa popularité chez les non-communistes. Mais donc, critiquer Staline dans le monde communiste, c'était... c'était une mise en cause fondamentale, c'était une mise en cause existentielle, au sens propre du terme. Donc ce rapport secret, c'est un bouleversement complet, c'est-à-dire... la mise en cause du culte de la personnalité, la mise en cause d'erreurs de Staline dans la gestion de la Deuxième Guerre mondiale, la mise en cause de Staline dans les grandes purges en 1937 et 1938. On raconte, c'est difficile de savoir si c'est vrai, parce que les témoins sont décédés maintenant, que au moment du congrès, plusieurs délégués se sont évanouis, que quand le rapport a été lu dans certains congrès en Pologne et en Roumanie, plusieurs délégués se sont évanouis, donc choc psychologique. Donc j'essaie de vous dire combien c'était fondamental, hein, cette mise en cause. Et cette mise en cause qui au départ est secrète, puisque c'est dans un rapport à une session close du congrès, va être rapidement rendue publique. Et donc les partis vont devoir se positionner. Et une des choses qui va sortir à ce moment-là, c'est un concept du secrétaire général du Parti communiste italien, Palmiro Togliatti, qui va faire une interview dans la revue idéologique du parti, qui va dire il faut être dans une logique de polycentrisme, c'est-à-dire littéralement de plusieurs centres. Et qu'est-ce que ça voulait dire en pratique? Ça voulait dire la fin du caractère central de l'Union soviétique. Et c'est pour ça que 1956 est une date clé, c'est-à-dire jusqu'en 1956, personne ne met en cause le caractère central, même le caractère affectif, existentiel de l'Union soviétique. Après, progressivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On accepte, dans le chef de certains partis, de dire adieu à la révolution, c'est-à-dire de concevoir qu'on peut aller au socialisme par la voie parlementaire et par la voie électorale. Et de manière plus générale, 1956 est aussi une année horrible parce que les secousses que vont provoquer ce rapport secret va conduire à des événements très graves, d'abord en Pologne, et puis extrêmement grave, encore plus en Hongrie, des milliers de morts, intervention des troupes du pacte de Varsovie. Donc vous avez une forme de rupture et qui va se poursuivre par une démystification, si je peux l'appeler ainsi, de l'Union soviétique, avec l'intervention en Pologne et surtout l'intervention en Hongrie en 1956, l'intervention en Tchécoslovaquie en août 1968, l'intervention en Afghanistan en 1979, vous pourriez rajouter le coup d'État en Pologne en 1981. Donc, on est dans la fin de l'espoir révolutionnaire et on est dans la tentative de construire autre chose. C'est la dernière grande tentative de construire autre chose. Elle est intervenue dans les années 70. En fait, quand on étudie tous les partis communistes européens, on constate que les années 70, c'est un peu ce que je pourrais appeler le champ du cygne. Il y a une embellie, il y a souvent une embellie électorale, il y a parfois une embellie au niveau des adhérents, et il y a une tentative de construire quelque chose, qui est ce qu'on a appelé à l'époque l'eurocommunisme, c'est-à-dire un communisme aux couleurs de l'Europe occidentale, avec notamment la réunion des trois principaux leaders de l'époque, Enrico Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste italien, Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste français, et Santiago Carrillo, le secrétaire général du Parti communiste espagnol, qui vient juste d'accéder à la légalité en 1976. Et donc ces trois leaders sont à ce moment-là les trois leaders emblématiques et essayent de jeter les... C'est pas eux qui vont utiliser le terme eurocommuniste, mais essayent de jeter les bases d'un communisme adapté aux couleurs de l'Europe occidentale, mais ça ne va pas fonctionner. Et donc, à partir de ce moment-là, les partis communistes, après ce champ du cygne, vont rentrer dans une logique de déclin à la fin des années 70 et dans les années 80. Déclin lié à l'affaissement de l'image de l'Union soviétique, mais surtout déclin lié aussi à des considérations d'ordre socio-économique et sociologique. Les années 70, vous le savez, c'est les années ce qu'on appelle la nouvelle division internationale du travail, c'est-à-dire d'un bouleversement fondamental, c'est que des entreprises européennes se délocalisent, non pas tout près de chez eux, mais dans le sud-est asiatique. C'est le cas du textile. Les vêtements que je porte et les vêtements que vous portez, pour l'écrasante majorité d'entre eux, sont faits en Chine, en Corée, au Vietnam, que sais-je encore. Éventuellement, si vous avez de la nouveauté, en Éthiopie, et si vous avez parfois des vêtements européens, en Bulgarie, mais pour l'essentiel en Asie. Même chose pour la sidérurgie, même chose pour la construction métallique. Donc vous avez une nouvelle division internationale du travail, fermeture de nombreuses entreprises, et donc la base ouvrière des partis communistes va diminuer considérablement. Et donc à partir de ce moment-là, c'est une véritable descente aux enfers pour les partis communistes. C'est vrai à travers des indicateurs classiques, pour nous, c'est vrai d'un point de vue électoral et c'est vrai, par exemple, du point de vue des militants. Donc, je vous donne quelques exemples pour vous en porter témoignage. Mutation électorale, je vous l'ai dit, le grand parti communiste d'un grand pays après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le Parti communiste italien. Vous avez ici son évolution électorale, donc de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Donc vous voyez qu'il progresse dans les années 50, dans les années 60, et atteint son pinacle aux élections de 72 et surtout aux élections de 1976, presque 35% des voix. Et puis, à partir de l'élection de 79, et ça se confirme aux élections de 83 et aux élections de 87, on est dans une logique de déclin tendanciel, hein, et qui va se poursuivre, qui va d'ailleurs amener la transformation du Parti communiste italien. Vous avez l'autre exemple, le Parti communiste français, autre très grand parti d'un très grand pays après la Deuxième Guerre mondiale. Si vous regardez ses performances électorales, eh bien, on est dans une dynamique, hein, où le meilleur de ses performances intervient au début de la période, puis sous la Ve République, à partir de l'élection de 1958 jusqu'à l'élection de 1978, vous avez une relative stabilité autour de 20, 21, 22% des voix. Et puis, à partir des élections parlementaires de 81, confirmées en 86 et en 1988, eh bien, vous observez là aussi la tendance au déclin. Donc, ce n'est pas quelque chose... Hein, souvent, les chercheurs qui travaillent en monographie croient qu'il y a une singularité au parti. Souvent, d'ailleurs, on croit qu'il y a des singularités à la Belgique qui ne sont pas du tout singulières quand on compare à l'échelle européenne. De manière générale, tous les partis communistes européens, à la fin des années 70 et au début des années 80, sont dans un déclin accéléré. Je vous donne l'exemple des communistes finlandais, un grand parti qu'on ne connaît pas toujours très bien. Hein. Là aussi, vous voyez qu'au départ, c'est un parti capable de décrocher une bonne vingtaine de pourcents, presque 25% dans les meilleures élections. Puis un nouvel étiage s'installe dans les années 70 et dans les années 80. On est là aussi dans une chute et une accélération d'un déclin électoral assez marquant. Hein ? Et autre exemple, le Parti communiste luxembourgeois, peu connu mais pas moins intéressant, hein, qui a une courbe électorale faite de haut et de bas. Mais vous voyez, en 1964 et 1968, il est capable de décrocher 10 à 13, 14% des voix. Et à partir de 74, eh bien, on est dans une logique de déclin. Et je pourrais vous montrer toutes les courbes. Et en gros, il n'y a pas de contre-indication, à l'exception très partielle de laquelle le Parti des travailleurs chypriotes. Et vous pouvez faire la même observation pour les affiliés. Donc ici, je vous montre la courbe de l'évolution des affiliés au Parti communiste italien et au Parti communiste français. Donc commençons par la courbe des affiliés au Parti communiste italien. Vous voyez qu'il atteint un pinacle à la fin des années 40, au début des années 50, 2 300 000 membres, et puis que tendanciellement, vous voyez l'embellie des années 70, et puis on descend, et par la suite, la courbe va se poursuivre. Et vous avez exactement la même dynamique pour le Parti communiste français. Un pinacle au lendemain de la guerre, une longue stabilisation, l'embellie des années 70, et puis les années 80 marquent le déclin. Trois autres partis pour illustration, et puis on va faire la pause. Le Parti communiste de Belgique, quand même un petit mot du Parti communiste de Belgique, le Parti communiste autrichien et le Parti de la gauche communiste en Suède. Donc, commençons par le Parti communiste de Suède. Donc, comme pour tous les partis communistes, une très forte présence au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une stabilisation. Dans les années 70, l'amélioration et puis de nouveau le déclin. Vous avez ensuite la courbe du Parti communiste de Belgique. Non, pardon, c'est du Parti communiste autrichien, donc très forte présence au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, stabilisation dans les années 70, et puis déclin qui l'amène à des choses extrêmement modestes. Et enfin, la courbe du Parti communiste de Belgique, 88 000 membres au sortir de la guerre, une longue stabilisation autour de 10 000 membres, et dans les années 80, on rentre dans le déclin qui l'amène en 1989 à moins de 3 000 membres.
Ici se clôture la première partie de la conférence de Pascal Deluit sur les gauches radicales en Europe et enregistrée le 21 mars 2019. En seconde partie de conférence, la période contemporaine sera abordée.